Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris.
Restons courtois, Marc Hainaut.
Et vous êtes de retour à l'antenne de Radio Courtoisie dans l'émission Restons courtois, animée comme tous les jeudis par Valeurs Actuelles. Je suis Marc Hainaut et je suis en plateau avec Jérémy Bouy, éditorialiste entrepreneur. Bonsoir à nouveau Jérémy.
Bonsoir.
Et Valentin Gore, journaliste au service politique de Valeurs Actuelles. Bonsoir à nouveau Valentin.
Bonsoir à nouveau.
Nous avions parlé des espèces invasives et nous allons maintenant parler des élections municipales. Nous allons parler sans transition étrange, bien sûr, et non avenue sur le sujet. Nous recevons le politologue et éditorialiste Guillaume Bernard. Bonsoir Guillaume, comment allez-vous ?
Bonsoir Marc et bonsoir à tous les participants à cette émission. Écoutez, je veux bien, malgré, une atmosphère politique un peu pesante, il faut bien le reconnaître.
Mais je vais vous poser la question à vous, Guillaume Bernard, puisque vous habitez en Vendée, on ne va pas trahir de secret, à proximité de La Roche-sur-Yon. Et à La Roche-sur-Yon, il y a un débat. Il y a un débat justement en lien avec ces élections municipales, avec les questions même d'union des droites, en fait, puisqu'on a le maire sortant divers droites, il me semble, ou LR peut-être même carrément, qui est mis en difficulté par une tête de liste insoumise, en tout cas par une tête de liste de gauche, et qui, un candidat du Rassemblement National, de l'UDR, avec qui il refuse de s'entendre, mais La Roche-sur-Yon, par exemple, à cause de cette droite la plus bête du monde, eh bien, pourrait basculer à gauche, Guillaume Bernard. C'est un bon sujet d'intro, je trouve.
Oui, vous avez raison, c'est un sujet que je connais relativement bien, ne serait-ce qu'un peu, je dirais, quotidiennement, puisque je travaille à La Roche-sur-Yon, puisque mon université est là-bas. Vous savez, La Roche était à droite jusqu'en 1977. C'est une date importante dans l'histoire politique française parce que c'est à ces élections municipales-là qu'il y a eu une vague de gauche qui a annoncé la victoire de François Mitterrand en 1981. Et je me permets juste cette incise, et je vous promets, je reviens à La Roche-sur-Yon dans un instant. On n'a pas vu, lors de cette cette élection en 2026, on n'a pas vu cette vague qui prépare, je dirais, la présidentielle. Et donc ça, c'est quand même, mine de rien, quelque peu problématique. Je dirais, on voit qu'il y a toujours un éparpillement électoral. On reviendra sans doute là-dessus
Mais non, c'est
dans une
très
autre
intéressant.
émission.
Je vais rebondir là-dessus, Guillaume, justement. C'est vrai que là, donc c'est un peu votre enseignement au soir de votre conclusion au soir du premier tour et à 3 jours du second tour, c'est que il n'y a pas de tendance globale qui se dessine de premier tour. Il n'y a pas une leçon, il n'y a pas un gagnant, il n'y a pas de fait saillant en fait pour vous dans ce premier tour.
Oui, absolument. Non seulement il n'y a pas de fait saillant, mais il n'y a pas de rebond de la participation. Alors certes, il y a un rebond par rapport à 2020, mais c'est vrai qu'on était dans des circonstances très particulières, celles du Covid. Et puis, vous le savez, le deuxième tour avait eu lieu bien des semaines après le premier tour, ce qui était d'ailleurs tout à fait contraire aux dispositions légales et ce qui, à mon sens, mettait en cause la sincérité du scrutin. Mais bon, passons. Mais il y a eu un rebond par rapport à 2020, mais pas par rapport à 2014. Et donc, depuis 60 ans, on a une baisse de la participation municipale, alors que le maire est quand même à peu près le seul homme politique dans lequel les Français ont, sinon confiance, du moins, je dirais, lui témoigne, disons, un certain intérêt, et pas forcément d'hostilité, parce qu'il règle un certain nombre de questions de la vie quotidienne. Donc, le fait qu'il y ait une baisse de la participation et qu'on ait un éparpillement du vote, et puis une double cassure, le problème, c'est que je m'éloigne de La Roche-sur-Yon, mais j'y
Non, mais c'est pas
reviendrai.
grave, on y
J'y
reviendra, Guillaume, mais en fait, ça plante très très bien le
reviendrai.
sujet, donc on va
Mais
rester sur ce sujet-là, ça c'est très bien.
voilà. Si vous voulez, il y a donc un éparpillement du vote et il y a une double cassure. Une cassure géographique et une cassure sociologique. La cassure géographique, bah ça, on la connaît depuis un certain temps, évidemment. Elle est répétée lors de ces élections. C'est la distorsion entre les métropoles et ce que Christophe Guillouis, je ne partage pas toutes les analyses de Guillouis, mais son expression est remarquable, la France périphérique. Bon, ça, c'est très clair. Et il y a des très bons résultats de LFI dans les métropoles, pas dans toutes, mais dans un certain nombre d'entre elles et dans la périphérie de ces métropoles. Et puis, il y a des bons résultats du RN dans les France, dans les villes moyennes de la France périphérique.
Concernant
D'où
le
la
RN,
question.
on a parlé beaucoup, et d'ailleurs j'avoue avoir moi aussi utilisé cette expression à plusieurs reprises, on peut parler presque de victoire à bas bruit, puisque on a
Oui.
l'impression que de fait l'actualité était surtout prise par ce qui est presque bon signe pour la droite, en fait, par les scandales liés aux alliances LFI-Parti Socialiste, qui visiblement choquent l'opinion, ont presque plus choqué l'opinion que les quelques alliances RN-LR, d'ailleurs, peut-être parce qu'elles étaient moins nombreuses aussi, mais que pendant ce temps, tranquillement, implacablement, presque, le RN s'installe, en fait, Guillaume Bernard.
Alors, il s'installe, je suis d'accord avec vous. Il a gagné 25 villes environ dès le premier tour. Cela dit, il y a 35 000 communes, et il y en a 42 de plus de 100 000 habitants. Et donc, c'est quand même une victoire très, très, très relative tout de même. Je ne conteste pas, je dirais, le fait qu'il y ait une implantation locale qui se développe du RN, que les maires RN aient été réélus, RN ou, disons, de droite nationale du style Robert Ménard ont été réélus dès le premier tour. Très bien, mais enfin, c'est quand même très limité par rapport à l'ensemble du territoire. Et puis alors, il y a une deuxième cassure, c'est la cassure sociologique. Il me semble que très clairement, il y a un vote, je dirais, de beaucoup de Français, bien sûr. Comment dire, qui est un vote politique, un vote dans, je dirais, répondant à des questions générales, à des questions d'intérêt général ou de bien commun, et puis se développe inéluctablement, et alors là, c'est pour le coup extrêmement inquiétant, les votes communautaires. Alors ça va être le vote des bobos, ça va être le vote des femmes, ça va être le vote des homos, ça va être le vote des populations d'origine immigrée, et un certain nombre de partis, on le sait bien avec ce qu'on appelle la stratégie Terra Nova, un certain nombre de partis de gauche et notamment LFI, eh bien pratiquent cette stratégie d'agrégation de différents segments électoraux en essayant de capter donc ces différentes communautés.
Oui, ce qui est
Voilà.
amusant, c'est
Donc,
que ce qui est amusant, c'est quand on dit souvent que on a l'impression que seule la France insoumise a cette stratégie, mais de fait, elle se retrouve aussi chez les écologistes, au Parti socialiste, et même peut-être un peu plus résiduellement, mais réellement chez les Républicains.
oui, absolument.
Même un
Et
petit peu au Rassemblement national parfois. Hein, je rappelle l'affaire du Pontet.
Ouais. Alors, si vous voulez, la grande force de LFI, c'est que d'abord, c'est un parti qui a réussi à faire une coalition autour de lui, à avoir différentes sensibilités qui ne sont pas exactement les siennes, mais qui permettent de ratisser large. Et à la présidentielle, ça peut évidemment jouer. Ça explique ses résultats de 2017 et de 2022. Mais en outre, LFI, sous l'impulsion, je dirais, d'un personnage qui est intelligent, qui est Jean-Luc Mélenchon, LFI rassemble elle-même en son sein les différentes sensibilités de gauche, c'est-à-dire la gauche autoritaire, Robespierre, Clémenceau, la gauche collectiviste, Jean Jaurès, Maurice Thorez, la gauche, comment dire, libérale, donc c'est le wokisme, et puis aujourd'hui c'est le wokisme, et puis la gauche libertarienne ou anarchiste, c'est les antifascistes, c'est ceux qui sèment le trouble, c'est ceux qui veulent bordéliser la vie politique. Donc il a réussi à coaguler dans une même structure les différentes sensibilités de la gauche, c'est remarquablement intelligent. Et alors, pour en revenir d'une certaine manière à La Roche-sur-Yon, bah oui, la gauche est plus intelligente que la droite, je vous le confirme, je vous le confirme. Et effectivement, on a donc La Roche-sur-Yon qui a été à droite jusqu'en 77, qui a basculé à gauche en 77, qui l'est restée jusqu'en 2014. Il faut reconnaître qu'en 2014, pas beaucoup de gens de droite ne voulaient y aller, hein. Et beaucoup de gens se sont dit, oh, bah, on va laisser Luc Boire y aller, on verra bien s'il se casse les dents ou pas. Et puis finalement, il gagne. Et il gagne comment, Luc Boire, en 2014? Il faut se le rappeler, parce que c'est exactement la raison pour laquelle il va perdre en 2026. Il gagne en 2014 parce qu'il réussit à réunir le spectre de ce qui est à droite, pas forcément de ce qui est de droite, mais au moins de ce qui est à droite. C'est-à-dire qu'il a sur sa liste, y compris des gens de, comment dire, de centre-droit, et y compris des gens de sens commun. Et c'est ce qui fait qu'il gagne en 2014. Or, depuis 2014, il n'a cessé de dériver sur la gauche. Et aujourd'hui, il est le représentant de la Macronie. Il a tout seul libéré de l'espace politique sur sa droite, ce qui explique l'émergence d'une liste UDR-RN menée par Freddy Roy, qui est un vieux routard de la politique qui a travaillé pour le député et le ministre Mestre, c'est-à-dire quelqu'un qui était au centre-droit et qui, par, je dirais, le mouvement d'Extrogir, si vous me permettez l'expression, se retrouve candidat de l'UDR, alors qu'effectivement, il est toujours à peu près sur les mêmes positions, mais évidemment en prenant conscience que les enjeux de sécurité, d'immigration sont devenues primordiales dans le pays. Et effectivement, la liste de droite imbue, je dirais, de sa position et ne se rendant pas compte qu'elle a pu, je dirais, décevoir un certain nombre de ses électeurs, eh bien, aujourd'hui, refuse toute possibilité d'entente. Et donc, par conséquent, bah oui, il est vraisemblable que le scénario qui va se passer, c'est que la gauche unie va l'emporter. Ça n'est pas certain parce qu'il y a eu vraiment une très faible participation à La Roche. Donc, il peut peut-être avoir un rebond de participation et peut-être que les choses peuvent un peu changer. Mais enfin, le plus vraisemblable, c'est que la gauche l'emporte et que lors des prochaines municipales, eh bien, en 2032, eh bien, l'opposition ne se fera plus entre la Macronie et la gauche, mais se fera entre le camp national. Alors, est-ce que ça sera encore Freddy Roy ou un autre? On verra bien. Le camp national et la gauche. Voilà, c'est tout simplement le jeu de la vie politique. Je suis assez estomaqué de constater que beaucoup de gens, parce que beaucoup de personnes m'en parlent, comment dire, font semblant d'ignorer que voilà, il y a comment dire, très peu de différences programmatiques et idéologiques entre la gauche et la mairie sortante, et que donc par conséquent, le vote utile est plus un vote de bourgeois. Les bourgeois de La Roche-sur-Yon, c'est quand même des petits bourgeois, pardon, je veux pas. Mais enfin, on n'est pas à Breteuil dans le 7e, c'est quand même plus un vote pour des intérêts matériels qu'un vote véritablement, je dirais, un choix idéologique. Le vrai choix dimanche prochain, c'est entre Freddy Roy et le docteur Bossis, le candidat de l'Union de la gauche.
Valentin Gore, vous avez une question pour Guillaume Bernard?
Oui, absolument. Bah, je rebondis sur ce que vous disiez sur la bourgeoisie, qu'elle soit petite ou grande. On a quand même l'impression qu'il y a un peu un mouvement de boomerang dans ce premier tour des élections municipales dans les grandes villes, avec une partie de l'électorat modéré qui avait pu se laisser séduire, qui par les écologistes à Lyon ou à Bordeaux, qui par les socialistes à Paris, qui quand même revient vers le centre et même parfois vers la droite, hein. On sent que ces maires sont quand même peut-être plus challengés qu'on ne pouvait le croire, notamment à Paris, avec une sorte d'union des droites très brinque-ballante entre l'alliance d'Atti Bournazel et le retrait de Sarah Knafo.
Guillaume Bernard.
Oui, mais si vous voulez, là, vous évoquez ce qu'on appelle l'électorat flottant, c'est-à-dire cet électorat qui, certes, vote par principe modéré, et qui, en revanche, est susceptible de varier d'étiquette en fonction des circonstances et en fonction de l'offre politique. Ils ont testé les écologistes, ils en sont un peu revenus, et donc par conséquent, effectivement, ils se repositionnent un peu plus à droite. Je ne suis pas certain que ça soit véritablement un choix idéologique, je pense que c'est quand même plus lié aux circonstances de chacune des villes. Mais le cas de Paris, il est intéressant parce que, effectivement, là aussi, Rachida Dati a refusé la possibilité de faire une fusion qui aurait été à tout son avantage avec les listes de reconquête. C'est tout à fait, bon, à mon sens, c'est navrant, mais bon, ça n'est que mon opinion personnelle. Ce que je constate, c'est que Sarah Knafo a eu l'intelligence, évidemment, de se retirer dans le but, me semble-t-il, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais de légitimer la présence du représentant de reconquête, Zemmour, ou elle-même, eh bien, lors d'une éventuelle primaire de la droite à l'automne prochain, en prévision de la prochaine présidentielle. À mon avis, c'est un coup de billard à plusieurs bandes pour justifier son positionnement. On sait bien que Zemmour avait ambitionné à un moment donné, puis finalement, il avait renoncé de participer à la primaire de 2021. Et puis, finalement, peut-être que ce serait, pour le positionnement de ce parti-là, la meilleure des solutions. Donc, je pense que dans la stratégie de Knafo à Paris, il y a, je dirais, cette idée, je dirais, de préparer la primaire et la présidentielle de l'année prochaine.
Jérémy Bouy.
Oui, sur ce dernier point, je suis totalement sur cette ligne, cher Guillaume. Vous citiez tout à l'heure la facilité, la capacité de la gauche à s'allier, pour moi, pour une raison très simple, parce qu'elle s'allie entre candidats et partis de gauche. Pour moi, je le redis, je l'ai dit tout à l'heure et je le dis à chaque fois, je ne crois pas en l'union des droites, parce que dans le diagnostic qu'on établit, on considère qu'LR est de droite. Or, pour moi, LR le montre à chaque fois, LR n'est plus un parti de droite. Mais plus précisément, mon intervention s'adressait à ma remarque s'adressait à mon camarade Marc, qui a dit tout à l'heure que le RN s'installait, oui et non, mon cher Marc. Alors, je me réjouis évidemment des victoires au premier tour de messieurs Alliot à Perpignan, Racheline à Fréjus et ailleurs. Mais si vous voulez, au soir des européennes de 2024, quand on a vu le raz-de-marée, le score incroyable de Jordan Bardella, dans la foulée de la dissolution après Barnier, on était pratiquement à la prise de pouvoir, on présentait encore une fois un raz-de-marée RN. On nous aurait annoncé à ce moment-là que le RN au municipal de 2026 allait faire, pardon de le rappeler, 2% à Paris, 7% à Lyon, 7% à Bordeaux, et que le RN UDR, a priori, n'avait pas encore gagné Marseille et peut-être pas gagné Nice non plus.
Mais je vous aurais dit que je m'y attendais, très sincèrement, Jérémy, parce que, bon, déjà, effectivement, le RN ne peut pas décoller à Paris, mais en même temps, on a quand même Sarah Knafo qui arrive au second tour avec des idées quand même très à droite. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, en fait, quand je disais qu'il s'installe, je ne parlais pas forcément qu'il est parti à la conquête de ville, mais ce qui est vrai, c'est qu'il progresse quand même de manière assez forte. Moi, je prends une ville comme Reims, par exemple. En 2020, le RN avait fait 5% à Reims, et là, ils ont fait 21%. C'est-à-dire qu'il y a comme une multiplication par 4, qu'ils investissent les conseils municipaux, ça veut dire que potentiellement, ils préparent le terrain pour les futurs départementales, les futurs sénatoriales, les futurs régionales, et que c'est pour ça que je parle d'installation et pas de conquête, c'est qu'on les voit rentrer.
Il y a des photographies à certains endroits, mais je vous rappelle, messieurs, que peut-être projetons-nous quand même dans le scénario dans lequel, lundi matin, nous réveillons avec Grégoire, maire de Paris, avec Estrosi à nouveau maire de Nice, et Payan maire de Marseille. Ouais. Donc bon, c'est quand même aujourd'hui la progression. Voilà.
Guillaume Bernard.
Vous avez bien senti qu'effectivement, j'étais moi aussi un peu dubitatif sur, je dirais, la vague RN. C'est quand même aussi un peu de leur faute, je dirais, à force, je dirais, de purger le parti, évidemment, ils ne disposent peut-être pas de suffisamment de cadres locaux pour pouvoir présenter des listes un peu partout. Je vous rappelle, par exemple, aussi qu'ils sont même allés jusqu'à retirer l'investiture à une liste à Dunkerque, ce qui d'ailleurs n'a pas empêché cette liste de faire un bon score, qui a augmenté quasiment de 50%, de 40 ou 50% par rapport aux dernières municipales. Donc voilà, on a l'impression qu'il y a chez le RN un sectarisme, une volonté de pureté qui est 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus élevée qu'à gauche où on prend à peu près tout. Je constate que la diabolisation, dans le fond, le RN se l'applique à lui-même, tandis que à gauche, eh bien, la diabolisation de LFI, je dirais, à la suite de différents événements politiques internationaux ou l'assassinat, enfin en tout cas la mort de Quentin Derenque, eh bien, eux, ça ne leur pose pas de problème.
C'est ce que me confiait d'ailleurs un élu du Rassemblement National il n'y a pas très longtemps. Il me disait, pendant qu'on fait la chasse au 14e de liste de Trouville-sur-Eure, on a les insoumis qui présentent tranquillement une tête de liste à Argenteuil qui a été condamnée pour violence conjugale. Ça se sait, ça sort et rien ne bouge. Elle est quand même maintenue, quoi. Donc c'est vrai que il y a peut-être après c'est peut-être tout à l'honneur aussi des formations politiques d'écarter elles-mêmes les profils problématiques. Mais il est vrai que le Rassemblement National a choisi de donner dans la chasse aux brebis galeuses et que là-dessus certains lui reprochent de se soumettre un petit peu à des enquêtes journalistiques qui émanent parfois d'organes extrêmement militants, pour ne pas citer Street Press et Libération.
Ce qui est certain, si vous voulez, c'est que ces municipales ont quand même démontré qu'il existait, je dirais, un espace politique, certes pour l'instant encore limité, mais en dehors du RN, dans le camp national populiste. On le voit avec Dunkerque, on le voit aussi à Saint-Brieuc, où une liste de droite est vraiment et franchement à droite réussit à faire 13%. C'est pas grand-chose, mais enfin, elle est qualifiée pour le deuxième tour. Et puis, bien sûr, je le dis sur Radio Courtoisie, mais il est déjà passé plusieurs fois depuis le début de la semaine, c'est évidemment le cas de Segré en Anjou bleu. Valeurs Actuelles en a parlé aussi, c'est le cas de Jean-Eudes Gana, qui aurait été incapable d'obtenir l'investiture RN et qui fait 22% au premier tour.
Sur son nom, ouais.
Comme le maire est élu, et comme le maire est élu dès le premier tour, eh bien, écoutez, il va avoir 7 élus. Donc voilà, il y a quand même une recomposition. Moi, ce que je constate tout de même, c'est que, un, le discours antifasciste se révèle pour ce qu'il est très clairement, c'est-à-dire du terrorisme intellectuel et une fumisterie absolue. C'est-à-dire que tout ce qui est à partir du centre droit devient fasciste. Peut-être que ça donnera, je dirais, des idées à certains d'éviter, je dirais, de continuer à tomber dans le piège. Et puis, deuxième élément qui me paraît relativement, évidemment, important, c'est que la diabolisation, elle fonctionne à droite, mais elle ne fonctionne absolument pas à gauche. Il y a des alliances qui sont, qui sont faites avec LFI, y compris, par exemple, à Toulouse, où ça n'est pas un candidat du RN ou un candidat d'extrême droite qui est sortant et qui est susceptible d'être élu. C'est Moudenc, qui est quand même très, très mou, très, très tiède, très, très droite, très centre-droit.
Donc, oui, c'est pas la droite RPR des grandes années, quoi, comme...
Exactement.
Donc, franchement...
Voilà, et puis on voit même une alliance à Strasbourg contre une ancienne maire, Madame Trottmann, qui fait alliance avec le MoDem, donc avec le centre-droit. Il y a une coagulation de gauche pour l'empêcher de reprendre la mairie. Donc voilà, ce sont des jugements politiques, politiciens à géométrie variable. Qu'est-ce que ça aura comme impact dans l'opinion publique ? C'est encore trop tôt pour le dire. À droite, je pense que sincèrement, ça choque et qu'il y a des électeurs des différentes sensibilités politiques de droite, LR, RN, etc., que cela choque. Et peut-être que ça peut, je dirais, provoquer des décloisonnements encore plus nombreux que ceux qui existent aujourd'hui. À gauche, à l'évidence, il y a un réflexe partisan, un réflexe idéologique. Il y a non seulement, la tendance bouille politicienne qui explique cela, mais il y a aussi le fait qu'il y a un véritable continuum idéologique entre ces différentes formations et que donc forcément, naturellement, elles vont trouver des accords pour pouvoir occuper le terrain. Encore une fois, la gauche est plus intelligente que la droite.
Vous l'avez évoqué, Guillaume Bernard, dans votre prise de parole, vous avez parlé de Catherine Trottmann, donc l'ancienne maire de Strasbourg, candidate tête de liste du Parti Socialiste qui a fait alliance avec Horizon d'ailleurs et donc a qui s'est vu se faire retirer. Oui, d'ailleurs, c'est ça qui est assez amusant, parce qu'elle, elle s'est vu retirer son investiture PS parce qu'elle a osé faire alliance avec Horizon, alors que ceux qui se sont alliés avec les pires insoumis, eux, pour le coup, il y a eu un petit voile pudique là-dessus. Mais là, où, pourquoi je vous parle de Catherine Trottmann, c'est ce qui m'a beaucoup amusé, c'est qu'on voit donc Catherine Trottmann à Strasbourg, on voit Alain Carignon au premier tour à Grenoble. pendant ce temps, on a presque l'impression que je ne sais pas, moi, Jacques Chaban-Delmas est encore à Matignon. Enfin, vous voyez, c'est quand même... On
parle le
quand même...
retour des morts vivants.
Non, mais pas forcément. Alors, pas forcément des morts vivants. Et pourquoi je dis ça? Parce que l'autre enseignement de ce premier tour, mais on s'en doutait, mais maintenant c'est avéré, la Macronie a disparu. Quand moi j'ai écouté Gabriel Attal le soir du premier tour où il s'enorgueillissait devant les caméras de la victoire au premier tour de son camp à Coulommiers, quand on en est le soir du premier tour à mettre l'accent sur Coulommiers pour parler de ses succès, c'est qu'on sait que ça s'oriente tranquillement vers un carnage électoral, Guillaume Bernard.
Alors tant que la Macronie ne prend pas le pouvoir à
toute mon amitié aux habitants de Coulommiers, qui est vraiment une ville charmante, hein, voilà, ce n'est pas voilà, le sens de mon propos.
Exactement, il faut le préciser. Et
un excellent fromage.
Et tant que la Macronie ne prend pas le pouvoir à Saint-Nectaire, bon, ça va. Oui, je suis d'accord avec vous et je nuancerai juste un tout petit peu. La disparition de la Macronie, ça ne veut pas pour autant dire la disparition de
du
l'espace
centre.
Politique. Mmh. De la grande coalition des modérés. Mmh. Et on n'est absolument pas à l'abri que si cette grande coalition réussit à dégager une candidature, présentable, efficace, eh bien, ce ne soit pas ce camp-là politique qui finisse par l'emporter à la prochaine présidentielle. Donc je crois qu'il ne faut pas négliger le fait que, on n'a pas, et c'est le début de mon propos, on n'a pas de ligne de force, de tendance lourde qui se dégage de ces municipales. Ça s'explique bien sûr par le fait que c'est un scrutin local, dans 35 000 communes, avec beaucoup de listes sans étiquette. Donc c'est parfaitement entendable. Mais enfin, quand même, en 77, on a très bien compris qu'effectivement, aux législatives de 78, la gauche pouvait peut-être gagner. Elle a frôlé la victoire. En 81, elle a gagné. Eh bien là, en 2026, non, il n'y a pas de ligne de fond qui permette de dire en 2027, c'est plié pour le RN.
En tout cas,
je suis désolé, ça n'est pas ça. Voilà.
Ah, en tout cas, personne n'a dit ça. Personne n'a dit ça, en tout cas.
Non.
Personne ne veut aller jusque-là.
Personne ne l'a dit, sauf peut-être parfois certaines personnes très militantes qui peuvent peut-être se bercer d'illusions. Et donc, effectivement, les choses ne sont pas pliées. En revanche, il est bien évident que la victoire à Nice d'Éric Ciotti donnerait, je dirais, sans doute des éléments de réflexion à LR, parce que il est clair que c'est une ville importante, c'est une ville symbolique, ça pourrait peut-être entraîner, une sorte.
Surtout, c'est le cœur de l'électorat LR. Enfin, c'est le cœur du réacteur de l'électorat traditionnel des Républicains et de l'UMP. Après, Guillaume Bernard,
Et donc, il ne faudrait peut-être pas négliger le positionnement de l'UDR et son rôle relativement important dans la stratégie de la présidentielle et dans les éventuelles répartitions de postes ministériels ou aux législatives qui suivront inéluctablement. Voilà. Oui.
En tout cas, pour mettre de l'eau à votre moulin, Guillaume Bernard, un auditeur nous écrit « Tout ce dont on parle pour ce deuxième tour des municipales, les grandes villes, les 22 chefs-lieux des anciennes régions qui représentent seulement 8 à 10 millions d'habitants, car dans les élections de ces villes, les élections de ces villes se font intramuros sans la banlieue. » En gros, oui, c'est ça, c'est qu'en fait, on parle de villes, de communes qui représentent entre 8 et 10 millions de la population française, donc quelque part une minorité, en somme, si les chiffres de cet auditeur sont exacts.
Oui, c'est exact, mais ça n'empêche que c'est quand même le poumon, économique du pays. C'est malheureux, c'est ainsi. Alors, il y a des départements comme la Vendée, Cocorico, si j'ose dire, qui restent des départements essentiellement ruraux dans lesquels il y a un tissu de PME. Mais les centres urbains restent quand même, des pôles importants et ayant une influence, ne serait-ce que, dans les politiques publiques qui peuvent être mené. Il est évident qu'un parti politique qui arrive au pouvoir au niveau national ou qui arriverait au pouvoir au niveau national et qui n'aurait aucun relais dans les collectivités ou très peu de relais dans les collectivités territoriales, régions, départements, appartement commune, il serait relativement handicapé pour la mise en œuvre, pour la mise en œuvre d'une politique. Je vous rappelle qu'on a reporté, puisque normalement elles auraient dû avoir lieu en 2027, mais on a reporté d'un an, on a prorogé d'un an le mandat des conseils généraux, enfin départementaux et des conseils régionaux, et les élections n'auront lieu qu'en 2028.
C'était le mot de la fin. Merci beaucoup Guillaume Bernard d'avoir été avec nous dans ce Restons Courtois du jeudi, ce Restons Courtois de Valeurs Actuelles. Merci à Valentin Gore et Jérémy Bouy d'avoir été avec moi pendant toute cette émission. Retrouvez le Restons Courtois du vendredi animé par Boulard Voltaire avec l'excellent Marc Vaudrier. Moi, je vous retrouve jeudi prochain pour une nouvelle émission avec Valeurs Actuelles. À bientôt.
Ça suffit maintenant.